Et vous écoutez France Culture. Ce qui est immoral, c'est la bêtise. Rémy de Gourmont. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Témoin d'un âge d'or révolu, du besoin urgent et de la rencontre érotique, lieu de mémoire s'il en fut du mobilier urbain, la Vespasienne est à l'honneur en ce début d'année grâce à un roman de Sébastien Rutès, paru chez Albin Michel, et une exposition berlinoise conçue par Marc Martin, Fenster zum Klo, toilette publique, affaires privées, visible au Schwules Museum, jusqu'à mi-février. Histoire de pissoir, c'est maintenant dans Mauvais Genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un mauvais genre ce soir au fort parfum d'ammoniac, puisqu'il y sera question quasi-exclusivité des Vespasiennes et autres pissoirs républiques dont nous allons effectivement raconter l'histoire à la fois sociale, l'histoire architecturale, l'histoire érotique, à la faveur donc d'une exposition et d'un roman paru chez Albin Michel. Je serai accompagné bien évidemment du maître Beer. Comment va-t-il ?
Il va très bien. Bonsoir François.
Bonsoir maître Beer. L'actualité de Christophe Beer en ce moment, c'est quoi ? Après
l'actualité,
les événements, je dirais, de notre commémoration mutuelle jusqu'au 10 janvier.
Mais je me repose.
Oui.
C'est ce qui demande beaucoup d'énergie.
Bon, ben bon repos, mais oui, en espérant que justement l'énergie revienne. Mais elle est toujours là pendant l'émission. Bonsoir Sébastien Rutès.
Bonsoir François.
Heureux de vous revoir. Vous étiez notre invité il y a combien maintenant, 7 ans?
Je crois que c'était en 2011.
Oui. En 2011, donc 6, 8, presque 7 ans maintenant pour un polar animalier paru chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs. Très, très étonnant.
Oui, exactement. Bon, on change de registre.
Voilà, et qui racontait l'histoire au parc Montsouris d'un vieux corbeau détective qui enquêtait sur des activités criminelles menées par ses congénères volatiles.
Oui, c'est ça, sur une rumeur d'apparition de lions dans le bois de Boulogne.
Voilà, mais il y avait aussi le parc Montsouris, dans mon souvenir. Il y avait...
Oui, le corbeau vivait dans le parc Montsouris,
voilà,
et les lions se cachaient dans le bois de Boulogne.
Absolument. Et cela s'appelait donc Mélancolie des corbeaux. Et là, vous nous revenez pour un roman qui est le roman mauvais genre de ce début d'année, La Vespasienne, chez Albin Michel, où tout, Monsieur Beer, tous ceux qui écoutent cette émission fidèlement, ils trouveront de quoi pâtir et de quoi pâturer tous leurs sous, comme on dit.
Ah oui, oui, bah là, c'est le roman mauvais genre du début d'année, oui, oui. Oui, sans conteste.
Et on va bien voir pourquoi, puisque effectivement il est titré La Vespasienne et que le sujet, ma foi, est tout bien résumé par son titre. Mais alors il y a toute une dramaturgie, il y a tout un...
Oui, alors je suis très fier d'être le roman mauvais genre du début d'année. Je vais demander à mon agent de le mettre sur un bandeau, sur le roman.
Voilà, absolument, il faut le faire savoir et le proclamer. Bonsoir,
oui,
Marc Martin.
Le roman parle de l'aspect le plus mauvais genre de
Vespasienne.
Des Vespasiennes, oui, oui.
Mais on en dira plus dans peu de temps, dans quelques minutes.
Les pissotières sur France Culture, c'est mauvais genre.
Ah bah tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors vous êtes donc commissaire d'une exposition qui se tient à Berlin, Fenster zum Klo. On peut traduire par ça, comment
Une fenêtre,
fenêtre sur les chiottes, voilà. Absolument. Sous-titré toilette publique, affaires privées, Schwules Museum. Qu'est-ce que c'est que le Schwules Museum ?
Eh bien, c'est le musée LGBT à Berlin, on n'en a pas à Paris. Mais voilà, donc ils m'ont accueilli un peu
à
bras ouverts avec ce sujet qui forcément était du pain béni pour eux.
L'expression très choisie.
Moi, j'ai lu le roman de Sébastien, donc.
C'est vrai que nous n'avons pas de musée LGBT à Paris.
Non,
et
non,
quel
non.
type d'exposition on peut voir à Berlin dans ce musée?
Plein de choses, plutôt d'ailleurs ouvert d'esprit, mais là pour le coup on n'avait jamais consacré une exposition même sur les pissotières, donc c'est une grande première.
Voilà, mais espérons que cette exposition vienne à Paris, qui fut en son temps un haut lieu de la pissotière.
On croise les doigts.
Comment peut-on présenter Marc Martin à nos auditeurs et auditrices, Monsieur Beer?
Collectionneur de documents sur les pissotières, qui ont enrichi le catalogue, artiste, photographe et vidéaste, Vous tournez
mais
aussi
vous savez
des,
tout.
Vous tournez des films pour Pic Prod.
Oui, Pic Prod, je fais des photos aussi.
C'est
très,
quoi
très...
Pic Prod? Alors Pic Prod, bah, c'est un label spécialisé dans les vidéos gay extrêmes.
Un peu hard.
On peut dire extrême, voilà. Oui.
Je suis photographe à la base et c'est vrai que les Pissotières en tant que lieu, sale, un petit peu sombre, sont au cœur de mon sujet puisque j'ai toujours voulu révéler les choses un petit peu comme ça, cachées. Et c'est ensuite que je me suis rendu compte, parce qu'au départ c'était des Pissotières vides, hein, mais pas vides de sens, mais vides que je photographiais comme des lieux...
Vacantes, comme on dit.
Voilà. Exact. Et ensuite je me suis rendu compte de tout ce que ça représentait.
Et les Pissotières se sont peu à peu... Peuplé, bienvenue donc à Mauvais Genre, Mac Martin, et l'heure est venue, alors là, d'ouvrir rituellement, comme tous les samedis, notre encyclopédie pratique des Mauvais Genres. Et quelle est la page, ma chère Céline?
Eh bien, la page s'ouvre sur la lettre B, comme Bagdasarian, Serge Bagdasarian.
Je vois un homme de 50 ans avec des petites tirettes en élastique accrochées dans les cheveux qui lui permettent d'avoir le bas du visage qui s'affaisse un peu moins. Un grand maquillage avec des fossiles, un visage un peu effrayant, mais qui correspond au personnage de Camille que je dois interpréter, qui n'est plus de toute première fraîcheur. Et donc ça me correspond à moi quand je me regarde dans le miroir chaque matin, mais en pire là, parce que quand même, avec le maquillage, ça donne une chose assez monstrueuse quand même. De rejoindre une image de ce qu'on aurait pu être en tant que femme, c'est tout de même un peu troublant. Ça m'arrivait assez rarement d'être travesti quand même dans mon métier. Ça m'arrivait pour un film qui s'appelait Les Nuits d'été, où je jouais déjà un personnage travesti, mais je pesais alors 180 kilos, j'étais beaucoup plus gros, donc je n'avais vraiment rien à voir. Et j'étais très loin d'une femme, enfin, je représentais une figure... de bouffon, j'étais pas du tout un personnage érotiquement représentatif de quelque chose. Là, en me regardant, je me mets à représenter à une de mes tantes et à ma mère. Donc c'est très très troublant pour moi. Retire ta main, je ne t'aime pas, car tu l'as voulu. Tu n'es qu'un ami.
L'Interlope est le titre que Serge Bagdasarian a donné au cabaret qu'il a créé et mis en scène pour la Comédie Française. Interlope, voilà un mot que le comédien affectionne, synonyme pour lui de tentation, d'interdit, d'inconnu, et qui au tout début du XXe siècle faisait référence à un bal qui se tenait à Montmartre. Un mot qui petit à petit en est arrivé à désigner des boîtes de nuit ou des chansons liées à l'homosexualité. Il y a quelques années de cela, Serge Bagdasarian a écouté un disque intitulé « Chansons interlopes » qui reprenait ce répertoire de l'entre-deux-guerres. Il a été très attristé de découvrir l'ironie, la méchanceté avec laquelle on parlait des homosexuels dans une société où il fallait vivre de façon plus clandestine qu'aujourd'hui. Il a donc décidé de travailler sur le caractère oppressif d'une époque tout en l'associant au cabaret, espace de liberté et de transformisme.
De travailler sur par exemple la grâce et la féminité, ça évidemment... Il s'agit de trouver, de laisser venir les choses, de les laisser naître, de les laisser un peu mousser comme ça à la surface, sans aller chercher la caricature jamais. Donc voilà, il s'agit de trouver l'équilibre fragile entre la nécessité d'être un artiste de cabaret et puis de laisser venir au monde toutes les choses très féminines que moi j'ai pu à un moment donné m'interdire de connaître dans ma vie et dans ma façon d'être, parce que je voulais pas à un moment donné être opéré comme un homosexuel un peu féminin. Donc j'ai appris un peu à travailler là-dessus, à devenir moins efféminé. Donc là, d'un seul coup, il s'agit de laisser revenir ça avec un peu de bienveillance et un peu de douceur.
Alors ce spectacle, c'est un répertoire, il correspond à peu près à l'entre-deux-guerres?
Oui, en gros c'est ça, on a situé le cabaret dans cette période-là. Ce répertoire, j'ai eu du mal à le trouver. J'ai travaillé à partir de cet enregistrement qui est très bien fait, qui regroupe énormément de chansons autour du thème du travestissement, de l'homosexualité. Et finalement, j'ai trouvé peu de chansons pour le répertoire masculin et beaucoup de choses plutôt bien pour les filles, chez Suzy Solidor en particulier. Et d'autres. Mais chez les garçons, ça se passait pas comme ça. Quand on était homosexuel, et ben, à part quand À un moment donné, il y a une chanson qui s'appelle « Le long des berges grises » qui est plutôt poétique. Là, ça marche bien, mais sinon, il y a assez peu de chansons qui regardent l'homosexualité comme étant une chose belle et positive, quoi. J'ai dû élargir un peu les choses parce que sinon, j'y arrivais pas.
Mais c'est le cas du côté des femmes.
Oui, j'ai eu moins de problèmes pour trouver des chansons. Par exemple, une chanson comme « Ouvre » de Suzy Solidor, qui est extraordinaire, était une chanson qui était enregistrée, qu'elle chantait, qu'elle revendiquait, et de manière assez transparente d'ailleurs. Elle était assez honnête avec la personne qu'elle était vraiment, Suzy Solidor. Mais chez les garçons, c'était pas le cas. On se cachait un peu, oui, vraiment.
Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a meilleur.
Mon copain, une chanson de camaraderie virile de Jean Boyer sur une musique de Werner Richard Reimann, qui chantait dans un cabaret, peut avoir un tout autre sens. L'Interlope Cabaret est une création de Serge Bagdasarian de la Comédie-Française, avec sur scène Michel Favori, Véronique Vella, Benjamin Laverne et Serge Bagdasarian. À voir à la Comédie-Française en ce moment, et ce jusqu'au 11 mars 2018.
Les doux aveux des amoureux, avouons-le maintenant, ces vieux jeux, c'est plus charmant que des longs serments qui ne sont que des boniments. Loin des baisers pour se griser, sur une route il suffit de gazer. Le grand amour, ça dure un jour, l'amitié dure toujours. Avoir.
Merci Céline pour cette entrée. Serge Bagdasarian de notre encyclopédie pratique des mauvais genres. Marc Martin, vous connaissez Serge Bagdasarian?
Oui, j'adore les vieilleries, moi, donc.
Vous adorez les vieilleries? Vous parlez de la chanson, bien évidemment. Mais
évidemment.
Que la
pas
chanson.
Pas de Céline. Hein.
Ni de Serge
Bagdasarian. Non, la chanson est quand même sur ce mode languide, tout à fait irrésistible. Sébastien Ruthès, vous appréciez aussi ce type de production?
Oui, Brassens l'a chanté, celle-là. Il l'a reprise, il me semble, sur un rythme un petit peu plus. Un peu plus rapide.
Mais est-ce qu'il y avait les mêmes images qui arrivaient à l'esprit quand on entend Brassens et quand on entend Serge Bagdasarian?
Non, parce que dans mon souvenir, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'il la joue avec ses amis, avec Moustache. Je crois que c'est un enregistrement fait chez lui.
Voilà, si il part avec des plumes, des strass et des paillettes.
C'est un enregistrement, alors je ne sais pas comment ils étaient, mais j'imagine que non.
Voilà, on va retrouver maintenant le bon copain ou les bons copains d'une heure ou d'un soir, mais dans l'univers élu des Vespasiennes. Hans à The Bracing House, un choix de Laurent Polleres. Et là, on voit tout le talent de notre réalisateur. C'est que même sur des sujets comme les Vespasiennes, il arrive à concevoir des playlists totalement adaptées. Et on l'en remercie. Alors, Vespasiennes, on va commencer bien évidemment par rafraîchir les mémoires, éduquer ceux qui ne le sont pas encore totalement sur ce digne sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une Vespasienne? D'où vient le mot, Sébastien Ruthès?
Alors, ça vient du nom de l'empereur Titus Flavius Vespasianus, le fondateur de la lignée des Flaviens, qui s'était mis en tête de collecter l'urine dans des baquets au coin des rues de Rome et puis de prélever une taxe dessus, puisque l'urine était utilisée pour, notamment dans la tannerie des peaux, dans la teinturerie et la tannerie des peaux. C'est à lui qu'on doit notamment cette phrase célèbre, Pecunia non olet, l'argent n'a pas d'odeur, qu'il
voilà.
répondit à son fils qui lui reprochait de prélever l'argent d'une aussi médiocre origine.
Donc voilà, ça c'est l'origine historique avérée de la Vespasienne, en tout cas du mot qui désigne les précieux édicules, comme les appelait Marc Martin, un livre célèbre qui leur a été consacré dans les années 60.
Alors, Claude Maillard a été
Claude Maillard.
Mon inspiration pour écrire mon livre à moi.
Alors justement, vous prenez un peu la suite de Claude Maillard. Il faudrait d'abord peut-être, on a maintenant l'identité sur l'origine du nom, raconter un petit peu l'histoire de ces Vespasiennes. Pourquoi ont-elles été créées et puis quel a été leur développement et leurs caractéristiques à la fois sur le plan du nombre, de l'implantation et sur le plan de l'architecture?
Elles sont arrivées à une époque où il fallait que les villes soient propres. Donc c'était effectivement...
L'hygiénisme, donc.
Voilà, l'hygiénisme. Et elles ont été ensuite...
Avant, on faisait dans la rue, sur le coin des bornes.
Oui, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais c'était vraiment des villes insalubres. Donc elles sont arrivées là et on a donné aux Vespasiennes une vraie dimension architecturale parce que ça faisait partie de l'époque où on faisait que les villes étaient de plus en plus belles. Donc il y avait des trésors d'architecture à l'intérieur de ces Vespasiennes, même à Paris, c'était formidable. Les premières Vespasiennes étaient vraiment très très belles.
Et donc, Céline Duchesnay.
La question que je me pose, c'est qu'il n'a jamais été question de créer l'équivalent pour les femmes.
Si, ah, voilà. Les Vespasiennes, justement, et c'est une très bonne question, ont été les prémices du féminisme, parce que les femmes se sont dit, et nous ? À juste titre, elles n'ont pas été entendues, je vous rassure, les pauvres. Mais
oui,
à juste titre,
il y a eu pendant une période ce qu'on appelait les chalets d'aisance, qui étaient des sortes de Vespasiennes, des édicules, mais fermées, gardiennées, où il fallait payer l'entrée, et où les femmes, il y en avait pour les femmes. Ça n'a pas duré longtemps, personne ne voulait payer.
Mais je garderai en tête ce nom de chalet d'aisance, qui est fort joli.
Voilà.
Oui, on imagine quelque chose de suisse.
Hein. Oui, c'est ça, des alpages, les vaches, le grand air, les Edelweiss. Ma foi, ça n'était peut-être pas tout à fait ça. Alors, dans le catalogue somptueux, où on trouve à la fois vos travaux de photographe, actuel, Marc Martin, consacré à l'exposition Fenster zum Klo. Il y a des photos, alors les célèbres photos de Charles Marville, photographe français parisien qui les a toutes photographiées. On a l'impression d'avoir...
1875.
Voilà, 1875. Ça date grosso modo des années 1840, les Vespasiennes, avec le préfet Rambuteau qui a donné son nom à des rues et des stations de métro, si mes souvenirs sont bons.
Il s'agissait surtout de Vespasiennes voilà. à une place
alors, justement,
en colonne.
Ce qui est intéressant, c'est de voir le développement architectural et social de la Vespasienne. Parce qu'au départ, Marc Martin, c'était une espèce de guérite.
C'est
une
ça.
Guérite de pierre où ne pouvait se trouver qu'une seule
qu'une
personne.
Qu'une seule personne. Au diable que ce soit le cas. Et on a imaginé qu'on pouvait être 10 ensuite dans une Vespasienne. D'où les extensions en tout genre, évidemment.
Parce que les colonnes Rambuteau gênaient la vue. Enfin,
c'est
perturbaient
ça.
le confort visuel. Il semblerait
des
même
passants.
Qu'on leur jetait parfois des cailloux ou des papiers quand les calèches passaient et qu'on voyait un homme dans une colonne Rambuteau, il se faisait huer, secouer.
L'hygiénisme y gagnait ce que le moralisme y perdait.
Voilà.
Et
alors rapidement...
Et donc on les a encerclés, donc on a fait des petites cabanes à l'intérieur. Desquels se sont passés tout ce qui s'est passé.
Mais au départ, parce que Haussmann était aussi un obsédé de l'hygiène.
Voilà, justement, c'est cette perspective hygiéniste qui consiste surtout, d'une part, à construire un type de bâtiment, je veux dire, d'édifice qui soit visible, qui soit hygiéniquement maîtrisé et qui soit aussi l'objet, peut-être, de support publicitaire. Donc, il y a eu plusieurs étapes comme ça. Il a fallu d'abord trouver, je dirais, des matériaux qui soient pleinement adaptés à la fonction de la Vespasienne.
Celle qu'a choisi Sébastien sur son livre montre bien qu'on pissait en pleine rue.
On pissait en pleine rue, mais alors sur quoi ? Sur le plan, je suis très intéressé par la culture matérielle et architecturale de la chose. De quoi étaient composés, quels étaient les matériaux d'une Vespasienne ?
Alors, les Vespasiennes dont je parle dans le roman, c'est déjà la deuxième génération de Vespasiennes, celle qui arrive dans les années 1860. Avant ça, il y a effectivement, comme disait Christophe, ce qu'on appelle les colonnes Rambuteau, qui sont ces colonnes dont on a parlé avec une niche. Et puis, comme il se pose ce problème de moralité, les femmes, les jeunes filles voient les hommes à leur affaire. D'abord, on commence par cacher la niche par un panneau en métal. Et puis tout de suite, les annonceurs publicitaires s'en servent, mettent des affiches dessus, et les gens se pressent pour lire les affiches, et du coup, il n'y a plus aucune intimité, c'est difficile de rentrer, il faut pousser les gens pour pouvoir rentrer, qui sont en train de lire les proclamations. Donc c'est là qu'on se dit, il faut trouver une autre solution. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que naissent les colonnes Maurice. Parce qu'on dit qu'il faut diviser, enfin, il faut séparer les deux fonctions, une pour uriner et puis une pour la publicité. Donc, colonne Maurice, Rambuteau. Et puis après, arrive Haussmann, donc, préfet de la Seine à la place de Rambuteau, qui était effectivement un hygiéniste convaincu. Et puis surtout, c'est l'époque des grandes expositions et notamment de l'exposition d'art et d'industrie. Et on lui dit, bon, il faut que nos Vespasiennes soient à la hauteur du rayonnement culturel de la France, hein, même dans cette dimension-là. Les fiertés patriotiques qu'on peut. Et donc, il faut que les édifices en jettent. Alors, on remplace les colonnes, qui étaient des colonnes en briques, on les remplace par la nouvelle génération de Vespasiennes, qui sont généralement construites en briques, avec des fonds qui sont des fonds en ardoise.
Alors en ardoise, pourquoi ? Parce que l'ardoise accélère le ruissellement, ne s'imprègne pas, il faut quand même une pierre qui...
Oui, ben parce que l'urine n'attaque pas l'ardoise. Et généralement, elles étaient goudronnées, on les passait au pinceau une fois par semaine pour goudronner le fond, parce qu'il n'y avait pas de système de comment dit-on, pour les laver automatiquement, ça coûtait trop d'argent, c'était trop coûteux en eau, donc on se contentait de les laver au pinceau et de les goudronner au pinceau une fois par semaine sur ces fonds d'ardoise ou de pierre de lave.
Marc Martin, là on a donc un dispositif qui avec le temps est devenu extrêmement au point. Dans la grande époque, il y avait combien de Vespasiennes dans Paris à peu près ?
Il y avait 4000 Vespasiennes.
Alors, dans 4000 Paris. 4000 Vespasiennes. Si on part sur les 20 arrondissements, ça fait 200 Vespasiennes par arrondissement. Mais alors où elles se concentraient ? J'imagine qu'il n'y avait pas un souci de répartition extrêmement démocratique. Où est-ce qu'elles se concentraient et dans quelles artères, dans quels quartiers, dans quelles...
Alors je suis pas le spécialiste, mais j'ai interviewé des gens qui ont connu Paris encore dans les années 60, et ils me disaient que tous les 200 mètres, il y avait des Vespasiennes sur chaque trottoir. Donc, il n'y a pas si longtemps.
Il y a aussi la couleur qu'il faut évoquer. Elles étaient souvent vertes, vert d'eau. Et ça, c'était aussi une volonté, l'idée d'amener un peu de nature dans le décor urbain. Les Vespasiennes étaient comme des ouvertures.
Des bouffées voilà, d'air, oui. Des moments de pureté.
Des moments
agrestes.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, ça, c'était une volonté d'Haussmann, oui, je crois. Puis elles étaient parfois surmontées d'un petit chapiteau. Il y en avait de toutes sortes. Elles pouvaient faire penser aussi à une architecture art déco par instant. Et puisqu'on parle aussi de Berlin... Avec l'exposition, les pissotières de Berlin sont très différentes.
Alors la question justement, voilà, qui se pose. Oui. Là, on a le modèle parisien, avec son histoire. Très rapidement, l'industrie française rayonne sur toute l'Europe. Et donc, Marc Martin, on retrouve les mêmes pissotières, les mêmes Vespasiennes de Paris à Berlin, ou est-ce qu'elles sont adaptées, repensées par le génie germanique ?
Non, elles sont complètement différentes. Et d'ailleurs, il y en a toujours à Berlin. Ils ne les ont pas enlevées.
Le nom allemand en fait nous donne l'indication de Arteck, qui signifie en fait octogonal, coin. Donc elles sont comme octogonales, alors qu'en France, oui, on a oublié de le préciser, elles sont plutôt rondes.
Mais elles sont plutôt ovoïdes.
Voilà.
Oui, ça dépendait du nombre de stalles qu'il y avait à l'intérieur. Il pouvait y en avoir 2, 4, 8.
Oui.
Parce que là, justement, aussi, on a vu une expansion du modèle. On a commencé par la guérite Rambuteau, où là, c'était une seule personne. Voilà. Et puis après, on est passé 2, 3, 4. Quelle est la taille maximum d'une Vespasienne, Marc Martin ?
J'ai vu 16.
16
places.
Ça veut dire que 16 personnes pouvaient y siéger de façon... Oui.
Plus ou moins permanente.
Simultanée, en tout cas.
Voilà.
Donc, en Allemagne, quelle va être un petit peu la démarche ? Est-ce que c'est une démarche hygiéniste ? Une démarche... Le rapport à la publicité, comment va-t-il être ?
Il n'y a aucune publicité sur les toilettes à Berlin, ça c'est vrai. Et elles sont apparues après la guerre. majoritairement.
La guerre, la avant, deuxième guerre
la deuxième
mondiale.
Guerre, absolument. Ouais. Oui. Donc, c'est, on a été précurseurs, nous, à Paris. Hein,
donc, la République de Weimar a ignoré la Vespasienne.
Il y en avait peu.
Voilà. Ouais. Alors, ce qui est Christophe Bier,
concernant les publicités, dans le catalogue, il y a un certain nombre de photos d'archives et on voit notamment que des publicitaires, des marques comme Pure Odor, ont investi les pissotières pour lutter contre les mauvaises odeurs, ce qui est assez extraordinaire.
C'est formidable, ça.
Ce qui semble aller de soi.
Un petit détail, à l'intérieur des Vespasiennes, il y avait toute une campagne pharmaceutique contre les maladies vénériennes. Et ça, c'est quelque chose déjà de très, très significatif.
Il était nécessaire de prendre en charge.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Le sympathique usager. Alors là, on parle de la Vespasienne au-dessus du sol, qui est présente là comme un monument. Mais Marc Martin, dans cette exposition berlinoise, Fenster zum Klo, vous montrez aussi beaucoup de Vespasiennes souterraines, avec des escaliers d'accès qui prennent très rapidement une dimension énigmatique, mystérieuse et assez attirante. Des objets de briques. Il y en a même qui sont de véritables bâtiments, mais comme des peut-être même à un étage. Donc rapidement, on a dépassé l'édicule de tôle pour aller vers une architecture et du bâti solide.
Absolument. Il y avait vraiment un souci esthétique qui est quelque chose que j'ai découvert petit à petit en faisant cette exposition. Ça m'a fasciné parce que je me suis dit, mon Dieu, on a consacré vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'attention à ces endroits.
Et qu'est-ce qui fait que les Parisiens l'ont supprimé et que les Allemands l'ont conservé ?
Ils les ont conservés plus longtemps. Mais pense qu'il y avait beaucoup plus de grabuges déjà à ciel ouvert dans Paris. Moi, je me souviens, dans les années 70, c'était quand même... on voyait pas seulement une paire de pieds quand on se baladait dans les rues, mais plus. Donc ça pouvait quand même...
Nettoyer en fait la ville de l'imaginaire. Parce que finalement, en entrant dans le cœur du sujet, c'est la Pissotière, si vous en avez consacré une expo à Berlin, c'est avant tout aussi pour la dimension érotique et fantasmatique. Et c'est ça, d'après certains, vous citez certains auteurs qui vont même jusqu'à dire que c'est l'état hétéroflique qui a voulu la peau des Pissotières et faire disparaître ces édicules où, en fait, beaucoup d'hétéros venaient se changer les idées, venaient faire des expériences. Et donc, c'est une explication qu'avancent certains auteurs que vous citez.
Marc Martin.
C'est ça, c'était un espace de liberté, absolument. Christophe a raison, c'était complètement des espaces de liberté dans la ville, qui n'existent plus aujourd'hui, évidemment. Sébastien raconte très bien dans son roman, c'est quelque chose d'improbable aujourd'hui d'imaginer. Mais c'était le cas, oui. Oui.
Print par le groupe conjoint, la playlist Vespasienne ce soir, concoctée par Laurent Polleret. Alors, effectivement, cette exposition berlinoise, Marc Martin, est consacrée à la dimension érotique et homo-érotique essentiellement de l'histoire de la Vespasienne et des toilettes publiques. Et on va écouter un témoin dont vous avez recueilli les propos, Marco Bérard. Quelques précisions sur lui ?
Il a été formidable. Il a été même le mur porteur de mon exposition parce que je me suis dit, oui. Il avait tellement d'engouement à parler de cette époque sans aucune pudeur, sans aucun, avec beaucoup d'aisance. Ça m'a fasciné, oui.
On l'écoute justement nous présenter l'univers enchanté des Vespasiennes.
La Vespasienne, surtout le soir, était essentiellement, était à 90% sexuelle. C'était pour la rencontre sexuelle et c'était pour la sexualité immédiate. C'était vraiment une époque où, on peut dire, et c'est ce qui était reproché d'ailleurs par ceux qui ne comprenaient pas ce genre de lieu de rendez-vous, comme quelque chose d'assez animal, d'assez bestial même, parce que c'était vraiment, je te touche la bite, on sort, on suce la bite, et puis au revoir. Ça pouvait être vraiment comme ça. Donc s'il se passait autre chose, c'était, je pense, de toute façon, plutôt rare. Ce qui m'a toujours passionné dans les tasses, c'est la rencontre, évidemment. Ça paraît simple. Mais c'est une espèce de jubilation de l'échange. Ce plaisir de rencontrer un autre sans aucun rapport autre que la sexualité. Ce bonheur, cette excitation, cette espèce de palpitation d'arriver à hauteur d'une tasse, de voir qu'il y a quelqu'un ou qu'il y a des gens et se dire formidable. C'était vraiment une excitation et qui est comme une drogue parce que, en fait, d'une part, dès qu'on croise une tasse, on va rentrer dedans. Hein, parce qu'on se dit, on ne sait jamais. Alors, ça dépend des circonstances. Si on est avec sa maman, on ne va pas faire. Mais, mais si on est seul, on va automatiquement le faire. Et puis, savoir qu'à 200 mètres de chez soi, il y a par exemple deux tasses qui sont presque voisines et où on peut vraiment, plutôt que de se masturber tout seul dans son coin, on peut rencontrer quelqu'un avec qui on peut faire des choses qui vont être des choses relativement simples. C'est pas des choses très très compliquées en général. C'est pas des choses, très développées. C'est un peu, c'est vraiment, moi je pourrais résumer à masturbation, fellation, en gros. Toutes les toilettes étaient des rencontres d'homosexuels.
Voilà le témoignage de Marco Béra, recueilli par vous, Marc Martin, à l'occasion de cette exposition berlinoise Fenster zum Klo. Alors là, c'est les pissotières, les Vespasiennes des années 60, où la sociabilité homo-érotique joue à plein.
Pas seulement les homos d'ailleurs, hein. Christophe a raison de le souligner, c'était vraiment un mélange.
Alors érotique.
Érotique, voilà.
Mais alors, cette dimension érotique de la Vespasienne, vous citez des exemples dans le catalogue de l'exposition. Il y a des exemples, effectivement, de notables bien-pensants du Second Empire qu'on a pris, dirons-nous, en plein partage social avec un jeune ouvrier. On a pris des militaires également. Mais
Eugène de Germigny.
Est-ce que c'est arrivé assez vite, cette sociabilité érotique dans les Vespasiennes, ou est-ce qu'il a fallu attendre, je veux dire, plusieurs décennies pour que l'idée germe?
Non, tout de suite, ça a été envahi parce qu'évidemment, l'homosexualité était interdite et cet endroit où on déballait ses attributs était l'endroit favorisé pour ce genre de rencontre. Tout de suite. Et partout dans le monde, pas seulement à Paris. Dès qu'il y a eu des toilettes publiques, ça a été l'endroit pour que les gays se rencontrent. Je pense que...
Sébastien Rutès.
Oui, l'affaire Eugène de Germigny, qui était un politicien d'avenir, qui était le poulain du parti catholique nationaliste, c'est...
À tout péché miséricorde.
1876, si je ne me trompe pas. Donc,
dans la Vespasienne des Champs-Élysées.
Vespasienne des Champs-Élysées, voilà. Qui met fin à sa carrière, à sa courte carrière politique.
Un jeune ouvrier de 18 ans.
Oui, voilà, qui le force à s'exiler. Il s'exile en Argentine. Il passe la fin de
sa carrière a été ruinée, je crois. Hein,
c'est oui, il est obligé de s'exiler après.
D'autant plus qu'il prenait c'était le père la morale de l'époque. Ouais, et donc, bing.
C'était là toujours un peu le problème.
En fait, là, on parle vraiment de tout l'aspect répressif. Mais ce qui est frappant, notamment dans le témoignage de Marco Bérard, c'est que dans toute cette période, en France, l'homosexualité n'a plus été un délit en 1981. Il a fallu attendre 1994 pour l'Allemagne. Oui, mais Marco Bérard explique que c'était malgré tout, grâce notamment aux Vespasiennes, une période extraordinaire pour l'homosexualité, parce que ces endroits, ces Vespasiennes, étaient un endroit de toutes les possibilités, toutes les libertés. Et donc, son témoignage est formidable parce qu'il oui. il exprime, en fait, cette on peut dire, une joie de vivre. En tout cas, oui. Ça dédramatise toutes les idées qu'on peut se faire sur l'homosexualité à cette époque-là. Bon, c'est l'homosexualité à Paris. Peut-être qu'en province, c'était plus compliqué. C'est vrai. Mais le témoignage de Marco Bérard a ceci d'extraordinaire, de nous montrer que la Vespasienne était un élément de découverte de sa sexualité, d'ouverture à d'autres, les hétérosexuels qui venaient descendre leurs chiens avant d'aller manger, de regagner l'appartement avec Bobonne.
Bottage familial.
Et tout d'un coup découvraient aussi ce que pouvaient être les caresses homosexuelles. Bon, c'était un lieu formidable de liberté dans une période paradoxalement répressive.
Les gens étaient dans le placard.
Mais c'était exact. Surtout ces Vespasiennes, des utopies sociales permanentes. Il y avait un brassage social unique. C'était, Sébastien Rutès, le seul lieu où, je dirais, effectivement, un homme politique important, un jeune ouvrier, un curé, un militaire, un artiste lyrique pouvaient se retrouver sans rien avoir prévu, tous ensemble, à festoyer.
Oui, oui, c'est vraiment, il y a un aspect paradoxal de la Vespasienne qui me fascine, qui tient notamment, j'imagine, à cette sorte de dialectique du caché et du visible. C'est-à-dire que ce sont des non-lieux dans Paris où se produit ce qui ne peut pas se produire ailleurs. Mais en même temps, c'est extrêmement visible. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure, on voit des pieds. On voit des pieds et on imagine ce qui se passe le reste. Donc, c'est à la fois caché, on ne sait pas, mais c'est aux yeux de tous et l'imagination peut travailler à partir de ça.
Dans votre roman, vous le dites très, très bien, l'occupation, c'était... Le roman se passe sous l'occupation. L'occupation, c'était dehors, à la surface. Pour les autres, la Vespasienne représentait un petit bout de zone libre, plus libre encore que la zone non occupée, sans pénitentiaire ni gaulliste, sans personne. Elle n'appartenait ni à Paris ni au présent. Elle perpétuait la liberté d'autrefois, les années folles. Donc c'est vraiment ça, effectivement, l'enjeu de la Vespasienne. C'est une sorte de... C'est une bulle, un monde fantasmatique, une brèche vers l'imaginaire.
Marc Martin,
j'ai adoré cette phrase parce que c'est vraiment ça. Bravo,
merci,
bravo,
merci. Bravo. Oui, on y projette ses désirs pour ceux qui effectivement vont les satisfaire dans la Vespasienne, mais pour ceux qui n'y vont pas, on y projette aussi ses fantasmes, parce que la Vespasienne, on la côtoie chaque jour, au quotidien, et on imagine ce qui se passe, on entend ce qui se passe, on voit des pieds. Donc, même pour celui qui n'y entre pas, il y a cet aspect d'excitant de l'imaginaire.
L'homosexualité n'était pas affichée. Alors, on pouvait très très bien imaginer tout un tas de choses et se projeter, c'est-à-dire sans l'étiquette de l'homosexualité qui allait nous pendre sous le nez. Ah, t'es devenu homosexuel parce que tu t'es fait plaisir rapidement dans une Vespasienne. Vous voyez, donc ça c'est vrai. D'ailleurs, dans votre roman, le héros n'est pas homosexuel.
Non, pas du tout.
Et je trouve que ça, c'est une autre dimension que j'aime bien apporter.
Alors on va se consacrer maintenant effectivement au roman de Sébastien Rutès. J'aimerais avant, Marc Martin, que vous nous fassiez un descriptif rapide de l'exposition. Quelles en sont, je dirais, les pièces majeures?
Moi, j'ai été fasciné de l'impact qu'elle a eu sur les femmes, par exemple. Et ça, c'était vraiment assez incroyable, parce que je me suis rendu compte qu'elle découvrait tout un monde qui leur était pas destiné. Ce que j'ai voulu faire dans cette expo, c'est montrer justement la dimension, comme vous disiez, du brassage social, de tout ce que ça représentait, parce que finalement les histoires de cul sont, comme dit Marco Bérard, assez banales finalement. C'est toute la dimension qu'elles ont attirée, tout ce qui a été comme un aimant et qu'on découvre à l'intérieur de ce qui s'est passé, voilà, c'est ça.
Fenster zum Klo, donc visible à Berlin au Schulhaus Museum
jusqu'au 19 février.
19 février, donc si vous êtes berlinois ou si vous avez le goût de faire le voyage vers Berlin,
une visite guidée volontiers.
Une visite mauvais genre à ne pas rater.
It's nice to hear your voice again. I've waited all day long.
even wrote a song for you. It's strange the way you make me feel. With just a word or two, I'd like to do the same for you. It's nice to hear you say hello. And how are things with you? I love you. But very soon it's time to go. An office job to do while I'm here writing songs for you. Strange how a phone call can change your day. Take you away, away from the feeling of being alone. Bless the telephone. It's nice the way you say my name. Not very fast or slow, just soft and low, the same as when you tell me how you feel. I feel the same way too. I'm very much in love with you. I'm very much in love with you.
L'ABC, François de Laurent Polleret pour Mauvais Genre. Alors parlons Vespasienne, parlons de votre roman, Sébastien Rutès. Donc l'histoire de cet étrange personnage, Paul-Jean Lafarge, qui fait un peu penser d'ailleurs au héros de Marcel Aimé ou de Raymond Queneau. Nous sommes à Paris sous l'occupation, novembre 41, et ce monsieur est directeur d'une revue de poésie. Mais ça n'est pas sa principale caractéristique, monsieur Beer.
Non, c'est un... Eh bien, en fait, c'est le fantôme de l'exposition de Marc Martin. Dans l'exposition, il plane l'ombre des soupeurs ou des croutonnards.
Les croutonnards.
Ces gens qui mettaient des morceaux de pain dans les Vespasiennes sur l'ardoise pour qu'ils soient peu à peu imbibés d'urine et pour ensuite aller les récupérer. Et Marco Bérard, par exemple, qui a été un grand habitué des Vespasiennes, a remarqué parfois des baguettes entières, mais n'a jamais vu les gens les ramasser. Ce sont des personnages très mystérieux, énigmatiques, dont on parle peu, donc du coup, c'est juste là, le personnage principal du roman de Sébastien Rutès, c'est un homme qui aussi est un voyeur. Il a en fait une fenêtre, son appartement donne sur une pissotière. Et donc, il observe tout ce qui se passe avant le couvre-feu.
Il prend des notes.
Il prend des notes aussi. Il y a une sorte aussi de jouissance de la prise de
notes.
De
la computation
et
de la liste.
Et de vérifier les allées et venues des uns et des autres, le pharmacien Picard, etc. Toutes les personnes de son voisinage. Et peu avant le couvre-feu, il va poser ses croutons de pain de façon bien, bien précise, très stratégique. Et il a aussi cette volonté de se faire un peu violence et de parfois rester un peu plus longtemps que au moment où il y a le couvre-feu. Il essaye de se faire violence parce que c'est un homme qui semble assez lâche, et peut-être un mot trop fort, mais... Quelqu'un qui se sent retiré du monde. Il n'est ni collabo, ni résistant. Il tient cette revue de poésie. Et en fait, pour lui, la seule chose qui compte, ce sont les sudations de sa nouvelle secrétaire et ses pieds, dont il imagine les perles de sueur. Et cette Vespasienne, qui représente tout son univers fantasmatique.
Alors Sébastien Rutès, il y a deux aspects qui se mêlent dans ce roman. Il y a l'aspect effectivement l'histoire, la quête et la saga érotique d'un homme, à la fois sur le corps de sa secrétaire qu'il observe par la serrure dont il imagine les pieds, et puis évidemment l'univers de la Vespasienne, les croutons, tout cet aspect. Et puis l'aspect historique, puisque nous sommes donc dans le Paris de l'occupation, et de par le fait de son activité de secrétaire et d'acteur en chef, on peut le dire, d'une petite revue de poésie, quand même assez en vue. Il est amené à rencontrer des officiers allemands portés sur les lettres. Toute ressemblance avec Ernst Jünger sera totalement, évidemment, hasardeuse. On voit également des dîners mondains où se retrouve le Gotha de la collaboration, Brasillac, Rebattet. Là, toute ressemblance avec les dîners de Florence Gould est évidemment pur hasard.
Cocteau-Marais.
Voilà, Cocteau-Marais, bien évidemment. Henri Béraud, Alain Lobreau, tout ce monde est là.
Drieux.
Quel est Drieux merveilleux. Quel a été un peu le projet d'articuler, je dirais, une quête érotique qui aurait pu se mettre en scène à d'autres moments, dans d'autres lieux, et puis un roman historique?
Alors, le point de départ, c'est véritablement le personnage. J'aime la littérature, ce que certains critiques ont appelé la littérature des détrousseurs d'âmes, en parlant de Jouhando, c'est-à-dire cette littérature centrée sur un personnage et qui va jusqu'au fond de sa psychologie, ses obsessions. Je voulais vraiment partir de ce personnage et j'avais décidé d'en faire un soupeur, parce que le soupisme qui est venu à moi de façon totalement théorique par la littérature me semblait une sorte de métaphore de nos pulsions les plus sombres. Et je voulais le mettre en rapport avec quelque chose qui soit à l'opposé absolument sublime, c'est-à-dire le désir de beau, la quête esthétique. Et donc que dans ce personnage se rencontre ce qu'il y a de plus abject et de plus sublime, enfin ce qui peut paraître le plus abject et le plus sublime en nous. Et à partir de là, je voulais que cette tension, cette dialectique, eh bien, elle s'incarne aussi dans une époque qui forçait les choix. Et évidemment, la collaboration est venue immédiatement, enfin l'occupation est venue immédiatement pour tirailler Paul-Jean Lafarge entre ces quatre pôles soupisme, perversion sexuelle, poésie, collaboration, résistance. Donc voilà, j'ai voulu l'écarteler entre ces quatre pôles-là.
Surtout qu'il est un peu poussé, je dirais, à l'action politique malgré lui. C'est la poésie qui le fait participer à des dîners d'idéologues ou à rencontrer des personnages qui sont politiquement engagés. C'est également, par contre aussi, ses activités érotiques qui l'amènent à devenir résistant, en tout cas à être pris à l'intérieur d'une activité, je dirais... politique et terroriste.
Oui, au début du roman, c'est un solitaire. C'est quelqu'un qui a énormément de mal à entrer en relation avec autrui, qui en souffre. Il a derrière lui toute une histoire, la façon dont son père l'a traité. Son père, grand professeur de littérature en Sorbonne, qui recevait ses maîtresses, ses étudiantes, et pendant ce temps enfermait son fils
dans un cabinet noir,
dans un cagibi près des toilettes. Toute la compétition qui s'est mise en place avec son père autour de la littérature pour essayer de prouver à son père qu'il pouvait être quelqu'un dans le domaine de prédilection de son père, et puis après l'abandon par sa femme. Et donc ce personnage-là s'enferme dans deux tours d'ivoire. D'un côté la tour d'ivoire de la poésie, il se veut un pur esthète, ce qui lui permet de ne pas avoir à faire de choix politiques, idéologiques, de ne pas s'impliquer, il se prétend un pur esthète. Et de l'autre côté, il y a ce que j'appellerais sa Vespasienne d'ivoire, où là encore, il n'est pas obligé d'entrer en relation avec l'autre pour satisfaire ses besoins érotiques. Le crouton lui sert de médiateur. C'est-à-dire, le corps de l'autre lui fait peur, hein, surtout dans la relation amoureuse. Mais par contre, le crouton lui permet d'avoir accès aux sudations, d'avoir accès au fluide du corps de l'autre sans le corps.
Et parce qu'il pense d'ailleurs que l'homme est dans le fluide.
Oui,
que l'homme est dans ce qui flue hors de lui, tout ce qui se répand hors de lui.
Exactement, oui, il dit voilà, l'amour, ce sont avant tout des fluides qui s'écoulent.
Il faisait doux dans la Vespasienne. L'odeur familière le mit en confiance. Face à la stalle centrale, il tira de sa poche la serviette de la périgourdine, saisit un par un les croutons du bout de ses doigts gantés et les disposa de part et d'autre de la cuvette aux emplacements habituels. Pas trop près, afin qu'ils n'y tombassent pas ou qu'un malin ne s'amusât pas à les viser de son jet, car trop d'humidité désagrège le pain. Mais pas trop loin, afin qu'ils fussent convenablement éclaboussés d'urine ou de toute autre substance qu'on dégouttait chaque jour à l'abri de ses parois pudiques. Certains attachaient leurs croutons au bout d'un fil pour les laisser pendre le long de l'urinoir, technique qui déplaisait à Paul-Jean Lafarge à cause du goût sirupeux que leur donnait l'huile dont on badigeonnait la pierre de lave. Lui préférait les laisser au sol, sur l'ardoise, là où les usagers ne posaient jamais leurs pieds crottés afin de les garder bien propres, et déposaient dessus des galets qu'ils trouvaient dans les pots de fleurs de la concierge pour les maintenir en place et protéger l'ami plus fragile. Plusieurs fois, il revint en arrière pour ajuster leur position, se repentant de les avoir soit trop éloignés par précaution, soit trop rapprochés par gourmandise. Une fois satisfait,
il quitta l'édicule juste avant le couvre-feu, impatient de se régaler, quoique vaguement inquiet, à l'idée qu'on pût le voler à nouveau.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Un extrait de La Vespasienne de Sébastien Rutès, le livre Mauvais Genre de ce début d'année qui nous est élu par Christophe Bire. Le plaisir de l'écrivain d'utiliser des subjonctifs plus que parfaits pour parler de croûtons, quand même.
Oui, bah, c'était un petit peu l'idée. Ce que Baudelaire avait voulu faire avec la charogne, créer quelque chose de beau à partir de quelque chose de repoussant.
Et c'est le personnage qui apporte ce subjonctif, en fait, avec ses gants blancs également. Voilà. Il y a aussi cette tension, il y a une autre tension dans votre personnage, c'est la tension entre c'est son souci d'hygiène, c'est quelqu'un qui se lave constamment les mains, qui se cure les voilà. ongles, et la souillure. Allant chercher ses croûtons imbibés d'urine et d'autres matières, précisez-vous. Donc là, il y a une tension. C'est peut-être la tension la plus forte que vous expliquez dans ce personnage.
Sébastien Rutès.
Ce qui me fascinait, c'était que le soupisme ne soit pas seulement une métaphore de nos penchants les plus sombres, mais aussi de notre désir d'abject. C'est-à-dire pas seulement de ce qui est en nous, mais parfois ce qui est en nous prend le dessus et l'on en a envie. On a envie de s'humilier soi-même, d'humilier son propre corps. La plupart des gens répriment ce désir d'abject, mais lui, de par sa solitude, de par son isolement, ce désir d'abject-là est trop fort. Et par ailleurs, il essaie de s'en protéger par un hygiénisme, des méthodes... de fléchérisme, par exemple, la façon dont il mange, il mâche chaque aliment.
Il mâche à mort,
deux fois.
Oui.
Lui, il essaie de s'en protéger parce qu'il sait que ce désir d'abject-là est extrêmement fort en lui.
Marc Martin.
J'ai adoré lire son bouquin parce qu'il écrit très très bien. Hein. Vraiment, c'est là. Et il y a de la poésie, effectivement, dans la part de l'ombre la plus sordide. Et ça, c'est vraiment... Bravo.
c'est Céline qui disait pourquoi y aurait-il moins d'art dans le laid que dans le beau.
Voilà. Céline avait été le premier d'ailleurs à mettre les croûtons de pain dans sa littérature. Hein.
Le premier, je ne sais pas, mais je sais qu'il en parle.
Oui, il l'a fait.
L'apparition du soupisme en littérature. Avec Céline, on va écouter là le témoignage de l'irremplaçable Marco Bérard, qui, dans l'entretien qu'il vous a accordé, Marc Martin, eh bien, s'exprime sur ce singulier soupeur.
Alors, le pain dans les Vespasiennes, les premières fois, j'étais très étonné, parce que c'était une baguette de pain posée. Je me disais, mais pourquoi il y a du pain là? C'était pour que ce pain soit imbibé d'urine. C'était ça le but. Et par déduction, c'est que quelqu'un allait venir le récupérer. De là à le voir le manger, il m'a fallu peut-être un peu plus de temps. Il y avait un côté ludique, il y avait un côté heureux. Vraiment. Je me souviens par exemple d'un souvenir de 68. En 68, les grands magasins étaient occupés. Les galeries Lafayette étaient occupées. En face des galeries Lafayette, du coin des galeries Lafayette, vers la rue de la Chaussée-Saint-Antin, juste en face, il y avait une tasse qui était très active. Eh bien, ceux qui occupaient les galeries Lafayette passaient la nuit à compter les allers-retours, ceux qui partaient avec un tel. Oh, t'as vu, celui-là, il est parti avec celui-là. Ah, ben ça y est, celui-là, il revient encore. C'était un immense, c'était un jeu, et c'était pas du tout un jeu critique en disant quel cochon, c'est dégueulasse. Non, c'est ah ben dis donc, celui-là, il a mis du temps à trouver un. Hein. En plus, je connaissais très bien parce que ma mère était occupée où il y avait Fayette. Donc... Et c'est elle qui m'a raconté ça. Et elle savait la vie que j'avais, mais elle savait peut-être pas la vie des tasses que j'avais. C'est pas certain qu'elle m'ait imaginé dans la situation. Je crois que par chance, je ne suis jamais allé draguer par là à ce moment-là. J'aurais été peut-être un peu embêté avec ma mère.
Mais Marc Martin, c'est les deux aspects quand même sur la dimension érotique de la Vespasienne qu'il faut noter. D'un côté, l'utopie sociale, le brassage social, la convivialité, la découverte, 1, 2, 3, 4, 5 personnes, au bonheur. Et là, et l'autre, écoutez, le soupeur, solitude absolue, l'homme qu'on ne voit jamais, le personnage qui revient à la nuit prélever son petit croûton ou prélever sa demi-baguette, c'est l'homme qu'on ne voit jamais. Jamais on a une photo, rien. Donc il y a un fantôme et un phalanstère dans une Vespasienne.
Ça fantasme pas, c'est ça, c'est absolument. D'autant plus qu'il a disparu, donc oui, oui, c'est vrai.
Et je ne sais pas si le personnage de Sébastien Rutès en souffre, peut-être, mais c'est une solitude qui... il lutte contre cette solitude. Il y a notamment un personnage très intéressant de bourreau. Il fait la rencontre d'un bourreau parce que ce bourreau lui vole à un moment donné ses croûtons de pain. Donc il le poursuit pour savoir qui est ce voleur de croûtons. Et ce bourreau, de temps en temps, est réquisitionné dans des bordels pour fouetter des hommes. Il a pris ça. Il a démissionné de ses fonctions de bourreau parce que sous l'occupation, il ne souhaitait absolument pas contribuer à perpétuer son travail. Et dans un bordel, donc le Paul-Jean Lafarge assiste à un exercice de flagellation et vous écrivez ceci. Ce qui caractérisait les mourants, c'était leur expression d'intense solitude, de l'absolue solitude du néant. Les notables qui l'épiaient dans la cave du bordel se sentaient seuls aussi. Ils venaient l'oublier dans l'orgie, les mains qui frôlent, les jambes enchevêtrées, la pénétration. Le désir de châtiment n'était qu'un désir d'autrui. Même le contact du fouet valait mieux qu'aucun contact du tout. Et donc, même le contact d'un croûton ou de l'urine d'un autre vaut mieux que pas de contact du tout. Donc, ça n'est la solitude semble le sujet principal aussi du livre, mais elle semble conjurée, je pense.
Oui, Sébastien Rutès.
Beaucoup d'auteurs de l'époque, dans leurs journaux, quand ils parlent de l'occupation, parlent de cette solitude, de ce sentiment d'un Paris vide. Ils parlent du silence, ils parlent de la difficulté de communiquer, ils parlent des arrondissements qui sont cloisonnés, du fait qu'on ne peut quasiment pas se déplacer. Donc il y a cette dimension-là qui m'intéressait, mais que je voulais relier...
Vous l'installez dès les premières pages, cette dimension.
Mais que je voulais relier à une solitude ontologique, en règle générale, de l'homme. Et oui, ces deux personnages-là cherchent l'un et l'autre des stratégies pour conjurer la solitude. Paul-Jean Lafarge, à travers ses croûtons, qui sont un moyen de rencontrer l'autre. Le croûton, c'est une rencontre. Et de la même façon pour le bourreau, le contact, même s'il est violent, est au moins un contact. L'autre est présent.
Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est en allant chercher, je dirais, une certaine satisfaction érotique et une certaine sécurité intérieure, on peut le dire, qu'il va rencontrer l'histoire des autres, puisque muré dans une cache à l'intérieur de la Vespasienne, il y a un pistolet, il y a des armes, et que là, la grande histoire rencontre sa petite histoire, et que la Vespasienne n'est plus appelée à devenir un lieu érotique clandestin, mais le lieu, je dirais, de la lutte clandestine contre l'occupant et une espèce de véritable champ de bataille. Donc il y a un basculement à la fin du roman extraordinaire entre l'intimité érotique et puis brusquement le combat, quoi, on peut dire, qui est mené.
Les Vespasiennes servaient aussi de boîte aux lettres pour les résistants, pour les trafiquants, pour le marché noir pendant la période de la guerre. Et oui, effectivement, c'est exactement le contraire de ce qu'il voulait. Lui, il voulait s'isoler. Il considérait qu'à l'abri, derrière les parois de la Vespasienne, il était tranquille, comme à l'abri de sa revue de poésie, il n'avait pas à prendre parti. Et c'est exactement le contraire. L'histoire fait irruption dans la Vespasienne et dans la poésie.
Merci Sébastien Rutès, merci messieurs d'avoir été ce soir les invités de Mauvais Genre. Je recommande bien sûr à tous les Berlinois l'exposition Fenster zum Klo, visible au Schwulows Museum jusqu'au 19 février. Donc. Et puis bien sûr, le roman Mauvais Genre de la rentrée, Sébastien Rutès, La Vespasienne, avec donc aux éditions Albin Michel, avec un bandeau tout à fait remarquable. Je signale également le numéro 43, mois, j'en reparlerai un peu plus, de manière un peu plus détaillée, de la revue épistolaire, L'Éros dans la lettre, avec toutes les correspondances érotiques de nos grands classiques littéraires français. Et Mauvais Genre recommande au théâtre Gérard Philippe, jusqu'au 10 février, le spectacle France Fantôme, texte et mise en scène de Tiphaine Raffier. Mais j'en reparlerai, nous en reparlerons également toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleré, Olivier Dupré, Sien Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnet, Christophe Bire et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous samedi prochain avec Gilles Seban pour son roman Cirque Mort au Rouergue Noir. D'ici là, bonne nuit à tous.
Yes, this is a favorite.